A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Un rêveur qui navigue entre matin parisien et nuit martiniquaise, qui ça peut être? Un rêveur qui a du jack à revendre, c'est qui ça? Bah c'est le beau Gérald Toto, guitariste, chanteur, arrangeur, réalisateur, compositeur. Bref, un type qui a toujours un Mediator dans la poche. On le connaît sans le savoir, en fait. Hein. Associé au travail de Mathieu Chédid, Smadge ou Faudel, fin des années 90, il prend la tangente de la carrière perso. Après Les Premiers Jours, Toto Bona, Loqua et Spring Fruit, il pose sur la table Sway, un quatrième album dont l'identité rime avec sensualité. Attention, discussion, puisqu'il dit de cet album que c'est celui de la déconstruction. Bonjour Gérald Toto.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes bien installé dans le fauteuil d'un sol majeur?
Je suis bien.
Vous êtes bien. Donc à vos oreillettes, on démarre avec Away Alive, un des morceaux de ce quatrième album. Le son est smooth, comme on dit en anglais. Mmh. Et pour l'image, c'est entre dreadlocks en catogan et basket dans le désert de sable. Bienvenue en sol majeur sur RFI avec A Way Alive tiré de l'album Sway. Je crois que c'est un morceau qui est fait pour bercer, pour chalouper, pour s'aimer peut-être. Est-ce que c'est ça votre définition de Sway, Gérald Toto?
Oui, c'est l'ondulation, retrouver les ondulations invisibles, retrouver sa propre temporalité en fait. C'est ça aussi, se laisser influencer par ce qu'on a à l'intérieur.
Pourquoi le désert sous vos baskets? Parce que c'est ce qu'on voit dans le clip qui accompagne cette chanson.
En fait, le désert, c'est allégorique. L'idée, c'était de se dire qu'on trouve réponse en soi, d'abord.
Mais le désert, là, c'est pas le vide, hein, c'est l'infini.
Non, non justement, c'est le désert, c'est la recherche, en fait. C'est le parcours. C'est une carte de sentier, en fait. C'est une carte de route. Le désert, c'est des routes qui se croisent. Le désert, c'est la vie, en fait. Il y a beaucoup de vie.
Donc l'infini, c'est ce qui nous définit, on peut dire ça comme ça. Mais vous, le citoyen français, je sais que vous pouvez entendre des choses aujourd'hui qui vous blessent. Je pense évidemment au débat sur l'identité nationale, qui a heurté une bonne partie de notre France il y a quelques années.
Besson a lancé le débat. Est-ce que c'est un gros mot, identité nationale, Eric ?
Ah, pour moi, c'est pas du tout un gros mot. Alors, on avait un système assimilationniste qui est tu te dépouilles de ta culture d'origine et tu adoptes la culture française qui est plus que des principes, qui est plus que la loi, qui est un mode de vie, un mode de civilisation. À partir des années 70, au nom du droit à la différence, au nom de l'antiracisme, etc., etc., on a abandonné ce paradigme-là et on a changé. Moi, je pense que c'est ce changement de paradigme qui est à l'origine de l'échec de l'intégration d'aujourd'hui. Moi, pour moi, j'explique tout comme ça. C'est-à-dire leurs problèmes d'intégration économique, leurs problèmes d'intégration culturelle, l'espèce de no man's land culturel. Ils ont aucune identité, en fait. Ils sont ni arabes, ni africains, ni français. Ils sont entre les deux. Je parle des jeunes de la deuxième, troisième génération, évidemment, hein, qui sont français de carte d'identité. Et je parle de beaucoup. La France, c'est 1500 ans, c'est pas les deux siècles de République. Pardon. Ou un siècle de République.
H comme Home Sweet Home.
Le polémiste Éric Zemmour, auteur du Suicide français, je vous ai vu, hein, Gérald Toto, vous avez rigolé sur sa formule de projet assimilationniste.
Ouais, il y a tellement à dire. Alors, je sais même pas par où commencer, en fait, à vrai dire. Dans nos familles, la vie nous enseigne la complexité de l'être. Nous-mêmes, on a du mal à savoir qui nous sommes, justement. Way of Life, c'est ce dont je parlais, en fait. Et ce que je trouve mais complètement hallucinant, mais pas seulement de la part de M. Zemmour, mais de tellement de personnes, de spécialistes, de personnes qui savent, les sachants, les fameux sachants, c'est que tout d'un coup, on essentialise, c'est-à-dire qu'on envisage très sérieusement, d'une phrase ou d'une autre, expliquer le comportement de millions d'individus. C'est-à-dire qu'il y a une unité carbone, et dire « Non, mais vous comprenez ces gens-là » Oui, alors, on parle de millions de personnes qui vont tous dans une direction, mais même les gnous sont plus complexes que les personnes décrites par ces sachants.
Hommage.
Ça part de là. Ensuite, si on veut rentrer dans les détails...
Un détail, pas plus.
Allez,
on sait que le diable se cache dans les détails. Mais...
La France, c'est pas 1500 ans d'histoire, ben non. Parce que sinon, Uderzo et Goscinny n'auraient pas écrit Astérix et les Gaulois. Non, parce qu'on considérait que ça ne fait pas partie de l'identité française. Mm-hmm. Sauf que la France, elle est très attachée justement à ses racines tribales, qui n'ont rien à voir avec la chrétienté, par exemple. Donc déjà, là aussi... On rentre dans d'autres choses. C'est donc, plus complexe.
Question voilà. Complexe. Peut-être à la Zemmour, est-ce que vous, le petit français d'origine martiniquaise, c'est comme ça qu'on vous présente, Gérald Toto ?
J'ai même entendu d'obédience.
D'obédience martiniquaise, c'est un programme ça aussi. Est-ce que vous connaissez et vous revendiquez, on va dire, une certaine France profonde ?
Mais de toute façon, mon vécu est incontestable. Et ça, c'est tout le monde pourra dire ça. Donc mon vécu, il est fait... de la France telle que je l'ai vécue, c'est-à-dire à Saint-Cloud, dans une famille antillaise, avec des vacances, des colonies de vacances, j'en ai fait une quarantaine, sur tout le pourtour de la France. Ça, c'est mon vécu. C'est-à-dire qu'après, on peut m'effacer, hein, on peut m'oublier, mais moi, je ne peux pas m'effacer et m'oublier. Donc, la baguette a autant de place dans mon esprit que le mango.
Vous êtes né en 67, mm-hmm. Mais vous êtes né où ?
À Paris 14e.
Il n'y a pas une histoire de bateau ou de traversée ?
Ah, j'ai su que j'avais été, comment dirais-je, conçu lors d'un voyage transatlantique, justement, oui. Sur le paquebot France-Antilles, qui faisait justement la navette à ce moment-là. Donc ça m'a plu, cette idée, elle est belle.
Ouais. Vous dites que vous êtes un enfant du baby-dôme, il faut nous dire ce que c'est, parce que c'est en référence au bumidôme, j'imagine, cet organisme français chargé d'accompagner l'émigration des habitants des départements d'outre-mer vers la métropole.
Oui, alors justement, j'en ai discuté avec ma chère maman, elle-même a dit non, alors je n'ai pas fait partie de ces convois, quasiment, hein, de personnes qui partaient des Antilles pour la métropole, mais cela dit, comme on en a parlé, on en a convenu après, elle a fait partie quand même du mouvement migratoire important des Antillais de 50 à 70. Moi, c'est simple. Saint-Cloud, pendant 10 ans, j'étais le seul noir, hein, tout simplement, au temps de ma scolarité.
Vous êtes né donc en France, mais conçu dans les eaux, on va dire, ouais, doublement. Ouais, ouais. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez vous sentir déraciné ?
Non, je me sens pas déraciné du tout, parce que les empreintes sensorielles ont été présentes justement bébé. Et donc j'ai été équipé pour ça, d'une certaine manière. Et ayant ressenti très fortement justement ces empreintes-là aux Antilles. Et puis, dès que j'ai eu une conscience politique, ça veut dire assez jeune, parce que j'ai questionné mon identité.
Elle est née à partir de quoi, cette conscience politique ?
De ma curiosité. Au début, avant de me laisser prendre par mon ADN que je ne présupposais pas avant, tout ce qui m'intéressait, en fait, je voulais faire Sciences Po, en fait. C'est parce que la géopolitique et l'histoire m'ont toujours captivé. C'était dans ce mouvement et dans cette émancipation personnelle, on va dire vers 14 ans, que j'ai commencé à lire et à interroger mon identité.
En synthé, Michel-Pierre Texier qui nous présente maintenant le journal d'Interactualité Magazine.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
On vous a concocté un petit flashback en sol majeur dans ce que vous pouviez avoir dans les oreilles de fin des années 60. C'est la France d'hier.
Ouais, la France d'hier, la France des odeurs, la France du bruit aussi. Je me rappelle par exemple les transports. J'ai souvenir comme ça que les métros déjà sentaient le cuir, des sièges, les ferronneries, beaucoup. Et puis ils faisaient beaucoup de bruit, des bruits de cloches. Il y avait des cloches dans tous les sens pour fermer, ouvrir et tout, et les cliquetis des portes. Ouais, je me rappelle de tout ça.
Pourquoi est-ce que vos parents ont choisi comme terre d'élection Saint-Cloud, donc près de Paris ? Vous dites que ce n'est pas n'importe quel lieu. Qu'est-ce que ça a de particulier, Saint-Cloud ?
Oh, c'est une banlieue bourgeoise. Ils ont eu cette opportunité-là. Ils étaient tous les deux dans la fonction publique. C'est génial qu'ils aient pu s'extraire des endroits qui leur étaient prédestinés. J'ai pu vivre comme ça, vraiment, dans une banlieue privilégiée. Hein.
Donc vos parents viennent de Martinique, de la Trinité de Sainte-Marie, pour être précis. Mm-hmm. Évidemment, avec une histoire chargée.
Oui, comme tout... Oui.
Parlez-nous de Marie-Thérèse et de Fernand.
Ah, mon grand-père et ma grand-mère. Mon grand-père était un homme qui a hérité.
Un rentier,
oui. Et ma grand-mère était une très belle femme.
Une capresse,
voilà, une très, très belle femme. Et mon grand-père, peu à peu, a perdu tous ses biens tout au long de son parcours d'homme. Et elle a fallu qu'elle se batte, cette famille. Voilà.
Donc une histoire chargée, mais chargée de non-dits, hein, on dirait.
Oui, parce que... Mais c'est souvent le cas, je crois, aux Antilles.
Alors, avoir une grand-mère capresse, ça veut dire que vous avez au moins un aïeul blanc dans la famille.
Oh, j'en ai au moins un, mais comme beaucoup d'Antillais. C'est-à-dire que là, du côté paternel comme du côté maternel, il y a du breton dans l'air.
Et vous connaissez leur identité à ces aïeux, oui, pas trop.
Non, je crois que du côté de ma grand-mère, son papa, donc je crois qu'il a été assassiné, parce que c'était un meurtre politique pendant la guerre 39-45, parce que lui, il était de la France libre.
Donc vous faites partie de l'histoire, quoi.
Oh ben, comme tous.
Un petit peu plus quand même. Mmh. Alors, il y a la Trinité, d'un côté, en Martinique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Tunis, sur la route familiale.
Mon père est né à Tunis, parce que son papa était militaire. Il était de faction, justement, en Afrique du Nord.
Donc c'est une famille quand même tentaculaire, on va dire, identitairement, pour reprendre ce terme.
Oui, forcément tentaculaire.
Alors, je ne sais pas si la culture antillaise vous a été transmise, Gérald Toto, mais en tout cas, toutes les musiques circulaient à la maison. Peut-être ça allait de Johnny à la musique portoricaine, en passant par ça.
Oui, Maman est là, mitié mille. Zot comprenne, il est mort, il peut qu'on mort. Même bité, même bagaille. Mais ni un mamzelle qui peut qu'on mort non plus. Surtout, mamzelle Marie-Jeanne. Mille les autres. Mamzelle Marie-Jeanne, j'ai comme qu'elle est l'évain.
Vous nous faites les présentations pour un sol majeur, Gérald
Tétard ? Le ballet, c'est quelque chose d'essentiel. Thierry-Émile, c'est pour moi un de mes héros, c'est la racine fondamentale, le tambour. Et je le place largement en équivalence à des personnes comme Johnny Hooker. Parce que c'est du même acabit, ça dit la même chose d'ailleurs. Parce que le ballet, ce sont des histoires de la vie. Et c'est pas autre chose que le blues. Quoi.
Qu'est-ce qu'il raconte dans Marie-Jeanne ?
Alors, de ce que je comprends, en fait, c'est qu'il parle d'une dame qu'on pensait enterrée et qui est encore bien vivante, quoi. Hippocomo. Et le ton employé avec le tambour pourrait laisser penser que, oui, il s'agit toujours de ritournelles assez légères, mais quelquefois c'est très grave. Mmh. On parle de choses graves, mais on le dit avec le tambour. On transcende la tristesse. Mmh.
Donc il y avait la musique à la maison, mais au-delà de ça, est-ce que la culture antillaise au sens large vous a été transmise, ses rites, sa langue
La langue, c'est compliqué aussi, le créole. c'est pas simple. C'est-à-dire que le créole, moi je fais partie, donc, ma mère, en gros, on lui a interdit de parler vraiment créole. C'est-à-dire qu'elle parlait créole de temps en temps. Elle fait partie d'une génération où à l'école, le créole était vraiment interdit. Où à un moment donné, l'État français considérait que c'était quelque chose qu'il fallait effacer. Et puis après, heureusement, avec les années 70, il y a eu le retour aux sources. Justement, le tambour, longtemps banni, parce que synonyme de sauvagerie, est revenu. Donc moi, j'ai beaucoup entendu le créole. On m'a engueulé en créole.
Forcément.
Donc, je connais bien le créole de cette manière-là. Mais par contre, je ne l'ai pas parlé. Et, mais la nourriture, bien sûr, et les carnaval, Noël, avec les chants et Noël. Oui, heureusement, j'ai été nourri de ça.
Les rites funéraires aussi
Oui, même si je n'ai pas fait tant de veillées. Mais au moins, on va dire que j'ai un terreau qui existe. Mmh. Je sais.
Une souche.
Oui, une souche, ouais.
Mmh. Oh, il fait tout noir, tout à coup. Il fait tout. Toto Bonalo, quoi. C'est un petit bout de nuit vocale qui va s'abattre sur un sol majeur. Ah, il y a de la bestiole, hein, comme dit notre réalisateur Thibaut Baduel, qui a tricoté donc une petite lune avec du Toto Bonalocqua. C'est votre deuxième ou troisième album ?
Là, c'était le premier album.
C'était
de Toto Bonalocqua.
Ouais. Le premier album. Mm. Vous devriez inviter Bobby McFerrin.
Mais justement, j'ai eu la chance de le rencontrer lors d'un festival et j'ai eu le plaisir de le remercier. Mm. Parce que clairement... Comme Al Jarreau d'ailleurs. Al Jarreau était le premier vocaliste dont j'ai pu apprécier le scat et ses polyphonies rythmiques et mélodiques. Et après, quand j'ai entendu Bobby Fearing, ça m'a encore mis ailleurs. Et je me dis, c'est cool, on peut y aller, quoi.
Donc ces sons de bestioles là qu'on entendait mixer avec ce magnifique morceau, c'est ma mascotte dans ce que vous avez fait. Gérald Toto, vous avez été les pêcher très loin ces sons-là.
Ben en fait, ce qui est fou aux Antilles, c'est que je n'ai jamais entendu du silence. C'est-à-dire en Martinique, quand on arrive, quel que soit le moment, il y a toujours une musique. C'est bon de rentrer justement. Voilà, on rentre dans une onde. Voilà, la nuit, il faut rentrer dedans, il ne faut pas lutter. Au contraire, après, on est habité par tout ça. Et en fait, ce que j'ai fait, un jour, j'ai besoin d'entendre cette musique de la nuit. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a une transition. En fait, ce morceau-là, il illustre en son la transition de la nuit au jour. Et à ce moment-là, il y a les petites grenouilles qui se taisent peu à peu, et les pipiris et les petits oiseaux qui prennent le témoin, en fait. Mm-hmm. Et comme ça, la musique change.
Alors c'est grâce au congé bonifié, ça s'appelle comme ça, que vous êtes allé régulièrement en Martinique, faire vos classes de sensualité peut-être.
Ouais, ouais.
Ça représente quoi finalement la nuit martiniquaise pour vous par rapport à la nuit parisienne ?
La nuit martiniquaise, pour moi, c'est la nuit des contes. C'est la nuit de l'imagination. C'est la nuit justement de toutes ces musiques. C'est la nuit chaude.
Gérald Toto, c'est une première guitare à 10 ans et très très vite, un premier émoi pour les Beatles. Pourquoi ?
Je ne sais pas. La mélodie sûrement, la joie et puis et les filles. Parce que mon premier souvenir des Beatles, c'est ce film « Quatre garçons dans le vent », je crois que ça s'appelait comme ça. Et c'était cette course-poursuite qui ouvrait le film avec « Help, I need somebody, help ». Et je voyais les garçons qui couraient avec plein de filles derrière. J'étais là, yeah, c'est trop bon. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was young, was so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light, I've never done before.
Qui passe une tête en sol majeur sur RFI pour les beaux yeux d'un auteur-compositeur-interprète qui a grandi entre les platanes parisiens et les fromagers martiniquais. J'ai nommé Gérald Toto. Attention, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est prêt?
est là.
Merci pour cet a cappella, Gérald Toto, pour En sol majeur sur RFI. Comment vous le présenteriez, cet a cappella ?
Eh bien, c'est l'a cappella du jour.
En quelle langue vous chantez ?
Justement, je chante avec la langue du cœur. Cette langue que j'emprunte consciemment, puisque en étant enfant, on l'emprunte tous. Cette langue spontanée, lorsqu'on n'a pas de mots, mais qu'on avait besoin de laisser parler l'émotion. On dit les choses bébé.
C'est et le gazouillis.
C'est le gazouillis, ouais.
Le babil.
Voilà. Mais sauf que là, en fait, j'ai appris à le retrouver quand j'ai commencé la musique. Et je l'ai vraiment conscientisé avec Smadj, justement, en faisant de l'électro-oriental. Et clairement, d'une manière discographique. Ben, sur mon premier album aussi. Où j'ai fait une première version de la mélopée, et puis après avec Toto Bonalo, quoi.
Donc c'est une langue inventée, on va dire, à partir des émotions.
Oui, sauf qu'elle est inventée sur le moment. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai chanté Umbaka, qui est sur l'album, mais avec les paroles pour toi. Voilà.
Oh là là. Cadeau en sol majeur. Comment vous raconteriez votre évolution depuis votre premier album, Les Premiers Jours, en passant par donc ce fameux Toto Bonalo quoi et Spring Fruit, pardon, jusqu'à Sway. Pourquoi vous dites que cet album est celui de la déconstruction ? Presque un gros mot, ça.
Mais parce que dans un premier temps, justement, pour déposer tout simplement qui j'étais au moment où je l'ai déposé, j'ai d'abord pris le soin d'effacer toutes mes zones de confort, tous mes sentiers rebattus qui commençaient
à
m'enfermer.
Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire ne plus être dans un schéma classique, par exemple, couplet-refrain.
Déjà, oui. Mais puis, j'en avais marre de mes mots, de mes chemins mélodiques, harmoniques. Donc, j'ai voulu m'oublier.
Le désert.
Voilà. Et en fait, exactement, le désert. Et ce qui m'a mis sur la voie, parce que je dessine, en fait. Je peins et je dessine. Chaque jour, je faisais un dessin. Et en fait, j'ai dit, mais pourquoi tu ne composes pas comme tu es en train de dessiner ? La ligne claire. Ça dit tellement simplement les choses.
Alors vous savez que parfois, on aime et on câline en sol majeur les origines. Et parfois, c'est très joli de câliner ça. Et par exemple, à l'origine de votre musique à vous, Gérald Toto, il y a au moins deux, trois grandes influences. La première, c'est celle-là. On est presque à la Trinité, en tout cas en Martinique. Fin des années 70, vous nous présentez ce groupe ?
Alors, si c'est la Perfecta.
Oui.
Ce morceau-là, je ne connaissais pas. Mais,
Seul l'avait moins.
Mais alors, par contre, le son, là, ça c'est vraiment. Alors, mes premières années, là, c'est là, le pick-up qui marchait à fond. et puis la famille qui dansait, et tous ces sons. Ben, c'est ce que j'adore, c'est truculent.
Entre salsa et merengue. Hein.
Mais oui, mais c'est parce que la Martinique a toujours reçu comme ça, a été toujours imprégnée du calypso, merengue, la salsa, tout l'espace afro-caribéen. C'est une identité, ce sont des identités qui n'arrêtent pas de se mixer, de se croiser, et je suis fait de tout ça. Ouais.
Mais est-ce qu'elle est là, cette idée ? Il y a une empreinte, vous diriez, de cette identité caribéenne dans votre musique à vous ? Moi, je ne l'entends pas forcément.
Ah, mais moi, bien sûr que si.
Ouais, donnez-moi vos oreilles.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, déjà la polyrythmie, et puis en plus, le mécanisme d'écoute. En fait. C'est-à-dire que moi, après, naturellement, comme tous les Antillais, à vrai dire, on a un jeu de clés qui est assez fourni pour comprendre les autres musiques. Pour ce qui est de la clé, tac, patac, tac, 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 tac. Ces clés-là, on les retrouve mais dans tellement de musique. Donc toute l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Afrique du Nord. Moi, si j'ai pu m'ouvrir au rail, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'accointances.
Mais ça, c'était pour l'album de Faudel.
Voilà. Mm. Mais avant Faudel, en fait, j'ai eu l'opportunité et la chance de célébrer pas mal de mariages juifs et des juifs orientaux. Et c'est comme ça que je me suis baigné dans la musique orientale.
Alors, la deuxième influence pour vous, Gérald Toto, c'est celle-là. Secondes de Marvin Gaye sur RFI pour en sol majeur, ça peut pas nuire à la santé, franchement.
Ah, mais c'est fou cette musique. Marvin Gaye, je l'écoute régulièrement, c'est comme les Pink Floyd, ce sont des médicaments, c'est une souche essentielle aussi.
La soul ?
La soul, et en plus, dans le cas de Marvin, c'est pas n'importe quel angle de la soul, c'est la sensualité multigenre, transgenre, même assumée. C'est-à-dire que, ben, il est féminin, il est masculin, Marvin, c'est magnifique. Il fait des falsettos qui sont. Wow. Enfin, ça me parle. Et puis, cette manière de spiritualiser la sensualité aussi, ça me parle aussi. Et puis, bien sûr, c'est cette musique noire américaine des années 70, c'est le rêve américain. C'était mon rêve américain, en tout cas, à ce moment-là.
La troisième influence, vous la devinez ? C'est celle-là. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. C'est une chanson écrite, je crois, dans un ranch de Nashville. On est dans les Santiago avec un old man, ça me dit quelque chose.
Neil Young, Harvest. Mais ça, là, c'est pareil, ce sont les grandes étendues, c'est de la poésie. J'ai besoin de poésie, moi. Pareil, très sensuel, très, très sensoriel en tout cas. Moi, je sens la ferme, je sens la terre. Et puis, c'est l'histoire transmise. Pour moi, ça fait partie de mes piliers, quoi, ça.
Presque chanteur à texte. Est-ce que c'est votre cas ?
Ben pour moi, il n'y a pas de petits et grands textes. À partir du moment où le texte est vibrant, chanter un texte, peut-être, mais je ne sais pas.
Ça fait de vous, en tout cas, ces quelques références, ces petits cailloux comme ça qu'on sème en sol majeur. Ça fait de vous un chanteur aérien. Engagé, je ne sais pas. Question d'ailleurs qui concerne votre nouvel album. Vous allez nous dire ça. Que vous évoque 1969 ? Réponse à la Gérald Toto, mais version en sol majeur. 69. C'est toujours érotique, mais éminemment politique avec le Festival panafricain.
Le premier festival panafricain n'est pas un divertissement général qui nous distrait de la lutte quotidienne. Il fait partie d'un immense effort pour notre émancipation. Il fait partie du combat que nous continuons tous à mener en Afrique. Qu'il soit celui du développement ou celui de la libération nationale.
Et 69, sous la plume de Gérald Toto, ça devient Alger 69. Deux pieds, les quatre oreilles, je sais pas, enfin tout le corps plongé dans 69, dans votre Alger 69, c'est l'un des titres de votre nouvel album, Sway. Gérald Toto, d'abord une réaction à ce 1969 et notamment à ce mariage improbable entre un Barry White et un président algérien, Boumdiène, qui fait le discours d'inauguration de ce festival PANAF.
Mais c'est au regard de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la stupéfaction. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, quoi ? Au ski, pour changer de direction, on fait un geste assez compliqué avec les... pour pas...
ouais. Bon, 360 degrés, d'accord.
Un genre de 60 okay. degrés, mais qui, où on tord un peu son
une contorsion, quoi.
Ouais, une contorsion. Et là, cette sensation-là, vraiment...
Mais pourquoi vous êtes focalisé, vous, sur 1969
c'est...
À Alger.
Ouais. En fait, j'avais composé ce morceau. Et j'ai collaboré... un temps avec une poétesse qui s'appelle Nefta Poetry, qui faisait une création qui avait trait justement à ce festival-là. Et du coup, j'ai regardé ce documentaire magnifique sur ce festival. Il y avait une rencontre parfaite entre ce que j'avais composé et ça, parce que ce festival-là, c'était un éveil. Ça signifiait, ça cristallisait un éveil, avec beaucoup d'espoir, justement, sur le non-alignement d'abord. Donc,
Vous trouvez que l'Afrique s'est endormie ?
Non, c'est pas endormi. Non. Allez, ces temps-ci, c'est toujours une lutte perpétuelle, j'ai l'impression. C'est une mise à l'épreuve perpétuelle et une lutte perpétuelle pour ne pas tomber dans le chaos, en fait. Non, elle est malmenée.
Elle est endolorie.
Ah oui, plutôt, oui.
Est-ce qu'Alger 69, par exemple, ça fait de vous un artiste engagé ? Ce qui n'est pas évident au premier degré comme ça, je ne vous aurais jamais présenté volontiers comme ça, mais le mot engagé, il n'a pas l'air si étranger que ça.
Non, mais moi j'aime bien, dès mon premier album, à vrai dire, j'ai écrit une chanson parce que j'en pouvais plus de lire ou d'assister ou de voir les histoires de sauvages. J'ai écrit « Le vrai sauvage ».
Vous voulez dire les sauvages, les sauvageons, pour reprendre le terme de Sarkozy
Non, c'était
pas Sarkozy,
non,
d'ailleurs.
C'était les pubs à l'époque de différents trucs, genre, excusez-moi, Vainé, Décathlon et autres, etc., où on mettait en scène des sauvages. Et je me suis posé la question, justement, est-ce que le terme sauvage existe en Afrique, par exemple ? Est-ce qu'il existe chez les Amérindiens, par exemple, aussi ? C'est-à-dire, j'en avais marre de ça. Parce que la sauvagerie, c'est quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'on essaye de cristalliser ? Et puis, après, ça m'a permis d'interroger ça. Ben, le fait d'interroger ça, déjà, faisait de moi quelqu'un, en tout cas avec cette chanson-là, c'était compliqué à prendre. Parce que, en fait, je vous parlais de l'esclavage, en fait, tout simplement, et de la sauvagerie, de l'esclavage.
Je vous remercie pour cet enchaînement que vous m'offrez sur un plateau.
Merci.
Gérald Toto, je vous emmène donc dans les temps anciens des Caraïbes, sur les routes de l'esclavage, ce merveilleux documentaire de Fanny Glissant. On va être pendant quelques secondes au XVIIe siècle, lorsque l'Europe veut touiller... son café avec du sucre, évidemment, c'est une denrée rare à l'époque. Et on le sait bien, pour produire du sucre, il faut beaucoup d'esclaves. Le corsaire anglais John Hawkins convainc alors la reine Elisabeth de lui prêter un navire, le Jesus quelque chose, et il se choisit comme emblème un noir ligoté.
J'affirme, Votre Altesse. Vous ramener un profit de 40 000 marques sans causer offense à quiconque de vos amis ou alliés. Je tournerai cette entreprise au profit de votre puissance, si vous m'en donnez l'accord. L'expédition que je propose consiste à embarquer des nègres en Guinée et à les vendre aux Antilles en échange de perles, d'or et d'émeraudes, que je pense ramener en grande abondance.
C'est comme Cosmogonie,
Avec cette question, Gérald Toto, quand la télévision française diffuse ce documentaire sur l'histoire de l'esclavage, est-ce que vous êtes au rendez-vous ou pas forcément ?
Ah si, j'étais tellement heureux. Je dis, ah enfin, il y a un truc qui a tendance à me tendre un peu. C'est non à la repentance. Ah ça suffit, oh y en a marre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai des siècles de silence. Des siècles à courber le dos, des siècles à vraiment à se soumettre et tout. Et là, depuis, allez, 10 ans, hein, 15 ans, on commence à parler, c'est déjà trop de bruit. Non, non, et ça suffit, hein, maintenant, il y en a marre. C'est-à-dire que, mais vous savez quoi ? On n'a pas fini d'en parler. Ça commence seulement. C'est-à-dire que, et puis, le truc qui est assez salvateur pour tout le monde aujourd'hui, c'est que maintenant, on ne peut plus taire les gens. C'est fini, ça. Le temps où on bâillonne.
Une désinhibition.
Non seulement il y a des inhibitions, mais en plus, ça, tous les modèles du dominant sont en train d'exploser. Les dominants, maintenant, ne sont plus exactement les mêmes.
Alors, vous, Gérald Toto, est-ce que vous êtes allé jusqu'à faire des recherches sur votre arbre généalogique pour en savoir plus sur vos ancêtres esclaves ? La vraie question, c'est jusqu'où portait cette histoire de l'esclavage ?
Alors, clairement, la première chose à intégrer en soi, c'est la sérénité et de l'indulgence.
Ça fait sourire, la sérénité, vous avez vu ?
Ouais, mais pourtant, c'est le plus important.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?
Il n'y a pas de méchant, il y a de la brutalité, il y a de la souffrance, mais lorsqu'on voit les choses réellement telles qu'elles se passent, on s'aperçoit que les choses seront plus complexes qu'une vision binaire qui écrirait encore du roman. Quoi.
Non, mais il y a une histoire de dominant-dominé. Les dominants ont été multiples, et ils ont eu des visages multiples, on est d'accord. Alors, on n'appelle pas ça de la méchanceté, mais système de profit, on va dire.
Oui, bien sûr, et qui sont encore en action aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi qui exècre vraiment l'essentialisation, je ne vais pas, moi, essentialiser les populations et les destins passés, surtout. Donc, parce que quand j'interroge l'esclavage, j'interroge tellement de choses qui sont quelquefois difficiles à entendre aujourd'hui. Je me rappelle d'un reportage magnifique aussi de Toto Bissainte.
Magnifique chanteuse haïtienne.
Qui a interrogé aussi son identité antillaise, qui a interrogé donc forcément l'identité occidentale, son héritage occidental, mais aussi son héritage africain. Elle a été en Afrique. Et au Sénégal, elle a posé la question... Tous vos enfants qui sont partis, vous les avez abandonnés. C'est difficile. Moi, j'ai été stupéfait par cette parole. Mais n'empêche que il y a quelque chose qui s'est passé aussi de ce point de vue-là.
Est-ce que vous connaissez l'Afrique un petit peu ?
Alors, comme dirait Mathieu Chédid, non, je ne connais pas l'Afrique. Je connais un peu l'Afrique et je ne la connais pas. C'est-à-dire que je connais un peu l'Afrique à travers mon métissage familial. Et j'en suis heureux parce que...
Mais il n'y a pas eu un désir chez vous d'aller voir ça de plus près.
Bien sûr, bien sûr. Et j'ai encore ce désir. J'ai pu aller à Zanzibar, en Tanzanie et en
Tunisie. Vous faites un peu la danse du ventre, hein, vous y allez doucement.
C'est-à-dire qu'en Afrique, comme partout ailleurs, je ne veux pas aller là-bas en touriste. Je veux vivre quelque chose là-bas et donc être dans la rencontre.
Dans votre cosmogonie à vous, Gérald Toto, vous diriez que vous avez plusieurs chez vous sur la Terre ?
Mon chez-moi, c'est là où se trouve ma famille. Donc,
Une guitare ?
Oui, forcément. Oui. Mais de toute façon, alors, déjà, pour moi, la notion de territoire, quand même, c'est tout est mouvant. Donc, pour moi, apporter de la fixité sur du meule, c'est une aberration. Donc, ça part de là. C'est-à-dire que la vie, c'est le mouvement. Donc, à un moment de dire, bon, alors maintenant, à partir de maintenant, on va tout figer. Ouais, c'est du stand-up pour moi.
On the road again. Bonne route alors.
Merci.
En sol majeur, @rfi.fr.
À consommer sur place ou à emporter, c'est comme on veut. L'album Sway de Gérald Toto, qu'on trouve chez.
Partout.
C'est une bonne destination.
C'est partout, oui.
Avec des concerts, évidemment, à l'horizon. Je donnerai une date. Il s'agit de Pédiluve. C'est à Châtenay-Malabry, au sud de Paris, le 14 février pour la Saint-Valentin, si c'est pas joli, ça. Et forcément, on va refermer cet ensemble majeur en musique. Alors, avec un choix cornélien pour vous à faire, entre d'un côté Time, de Pink Floyd, et de l'autre, Ghana Blues, d'un certain Gérald Toto.
Ah, Ghana Blues, non, pas Monsieur Richard Bonnat. Le trio, chacun, on arrivait avec des compositions.
D'accord.
Et on participait aux compositions, mais avec grand plaisir, un Ghana Blues.
Oh, merci. Richard Bonnat, c'est quand il veut, alors, pour être dans le fauteuil, dans le sol majeur. Ça, c'est juste une petite parenthèse. On fait comme ça, alors.
Ah oui, avec grand plaisir.
Vous êtes un amour.
Une bonne cyblène, ton goût d'amour ni mon bol la voix. Ma beau, mon dernier babobé. Des bouts de l'anjon, merci. Et ni yen de ma mongo ka woudou. Yen en bolo, et boukin de bimba wo. Ma singa na wa. Woko woko. Woko woko. Woko woko. Lende wa. Papa, chika pa. Woko woko.
De quoi?
Woko woko.
Qui a dit comment?
Woko woko. Lendewa. Nimbana si ben. Tungu da kapa mbolawa. Udo onda nyemba bobe. Ibola njomasi. Eni yende mamungo kabudu. Yene bolo ele bukinde bwemba bo. DJ Amunjami, et c'est le bon bois de Diba non non. Oh ma bonne nyolo nyolo che. Allo ma tingi na balato, oh Diba non non. Bakoto et de go na wo, Diba non non. Danse non non. Diba non non. Danse non non. Ballet de Guona, Deepa no no, don't say no no, Deepa no no, don't say no no,
Banco de Bandeco na Yamakuja. Sama e, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est pas des canne banana.
Woko woko.
Ah oh.
Woko woko.
Ah mi amor.
Woko woko. Lendewa.
A tout petit.
Woko woko.
Yami ane nambo.
Woko woko.
Je vois bien nos vannes se pangambo.
Woko woko. Lendewa.
Ah yeah yeah.
En sol majeur avec Facebook et puis Twitter, c'est sympa de tweeter, c'est aussi sympa de podcaster avec notre application Pure Radio. Se retrouver également derrière le poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10, temps universel, 15h à Paris. Tania Tsikounas, Thibaut Baduel, Sophie Janin, Yasmine Chouaki, on vous retrouve, on vous espère, la semaine prochaine avec la comédienne autrichienne Jutta Johanna Weiss. À la semaine prochaine.